France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous exceptionnel avec un des compositeurs français les plus célèbres, bien au-delà de l'Hexagone. Il a joué avec Édith Piaf, écrit pour Yves Montand et Charles Aznavour, remporté l'Oscar de la musique de film et accompagné dans une amitié sans faille la plupart des films de Claude Lelouch. Il s'agit, vous l'avez compris, de Francis Lai que nous retrouvons dans quelques instants avec sa verve chaleureuse et ses innombrables souvenirs. Francis Lai, ce matin sur France Musique, juste le temps d'une petite chanson sur le printemps qui vient de s'achever. Le printemps, c'est fini, mais l'après-printemps, ça continue.
Oui, je suis, je m'en raconte en retard et j'en ai honte, mais il faut que je vous conte ce qui vient de m'arriver. Je passe aux Tuileries.
Et oui, le printemps, c'est la saison d'amour, surtout chantée par Yvonne Printemps, ici dans les Trois Valses. C'était en 1937. Et je vous propose d'ailleurs, en fin d'émission, de retrouver trois grandes dames, leur voix parlée et leur voix chantée. On a rendez-vous tout à l'heure avec Miss Tinguette, Pauline Carton et donc à nouveau Yvonne Printemps. Mais pour l'instant, il est temps de retrouver notre invité.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi, Benoît. France Musique.
Et oui, car nous avons rendez-vous ce matin avec un musicien culte, comme on dit, autant chez les vieux amoureux de la chanson que chez les jeunes DJ branchés. Il nous a reçus voici quelques jours dans son appartement, pas très loin de la maison de la radio, pas très loin d'ailleurs de celui d'Alain Goraguer que j'ai visité l'autre jour. On dirait que tous les musiciens habitent dans ce quartier de Paris. En tout cas, c'était un moment merveilleux que nous avons passé en compagnie de Francis Lai.
Thank you.
Bonjour Francis Lay.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. J'ai choisi pour commencer cet extrait de Les uns et les autres parce que je me dis au fond que c'est vraiment, peut-être plus encore que tout ce que vous avez fait, un film musical, mais un film sur la musique d'une certaine façon.
Oui, c'est un film sur la musique et d'autant plus qu'avec ce film, j'ai eu l'occasion de faire la moitié de la musique pour tout ce qui concerne l'Europe.
Oui.
Et Michel Legrand a fait toute la partie américaine.
Voilà.
Donc c'était la première fois où on se retrouvait pour une même musique et ça a été un vrai régal. Alors, moi, j'avais une telle admiration pour Michel Legrand parce que j'ai
les films musicaux notamment avec Demi.
Ouais. Surtout les Parapluies de Cherbourg, qui pour moi est un chef-d'œuvre total. Quand Lelouch m'a dit tu vas faire toute la partie européenne et Michel va faire toute la partie américaine, j'étais aux anges. Et
mais,
voilà. Et
mais vous connaissiez quand même un petit peu.
On se connaissait à peine,
ouais. Hein, ouais.
Ça, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se côtoyer vraiment et de travailler surtout ensemble.
Et d'ailleurs, je crois que vous avez demandé finalement à Michel Legrand aussi de s'associer à vous pour l'orchestration d'une partie de vos musiques.
Hein. Je cherche des thèmes. Quand le thème est choisi, après je cherche des orchestrations avec mes machines et j'orchestre un tout petit peu ce que je donne ensuite à un arrangeur qui lui remet tout en ordre et utilise les véritables orchestres.
Les véritables orchestres.
Ceux que je souhaite à tout le monde, parce que c'est tellement beau un grand orchestre.
C'est vrai, mais c'est très beau aussi, je le précise aux auditeurs chez vous, Francis Lay, où nous sommes aujourd'hui, de voir toutes ces machines avec lesquelles vous recréez quand même une sorte d'orchestre pour les maquettes. On en parlera peut-être, je crois que c'est votre façon de travailler. Je reste encore un peu à ce film Les uns et les autres, donc je dis film qui avait pour fil conducteur la musique. Est-ce que ça veut dire que, comme ça a été je crois souvent le cas, vous l'avez presque construit main dans la main avec Claude Lelouch, ce film?
L'originalité de travailler avec Lelouch,
oui,
c'est qu'il veut la musique définitive enregistrée avant le tournage. Et ensuite, lui se sert de la musique pour le tournage. Et ce qui est fabuleux, c'est que les acteurs, inconsciemment, ils sont portés par la rythmique, par le rythme de la musique. Et vraiment, il y a un conditionnement qui se fait instantané. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans une séquence avec Trintignant et Anouk Aimée dans Un homme et une femme, où ils marchent en musique carrément et on ne s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'il y avait la musique qui était derrière.
Voilà. En ce sens-là, donc, on peut dire que non seulement Les uns et les autres, mais presque tous vos films avec Lelouch sont d'une certaine façon des films musicaux.
Ils sont musicaux dans la mesure où, effectivement, il se sert de la musique pour le tournage. Mais ensuite, c'est un des rares à aimer autant la musique et à considérer la musique comme un véritable acteur. C'est-à-dire que là, la musique, elle prend toute sa place. Elle est toujours en contrepoint avec l'image. Il ne met jamais une musique qui souligne un effet ou des choses comme ça. Non, pour lui, la musique, elle doit apporter quelque chose en plus.
Il est vrai qu'inversement, on connaît beaucoup de cinéastes qui arrivent quasiment à la fin du tournage sans même savoir encore qui va écrire la musique.
Oui, non, mais non, puis c'est redoutable parce que on vous laisse 15 jours pour faire une musique, donc bon, des fois c'est un tout petit peu, bon, des fois c'est réussi, des fois c'est à côté. Hein.
Francis Lay, en tout cas, on le sait évidemment, vous êtes compositeur de cinéma, vous êtes aussi compositeur de chansons. On va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, quelquefois, ce sont des chansons au cinéma. Est-ce que c'est le même métier pour vous?
Non, mais ça a contribué à me donner cette chance de pouvoir faire la musique de film, parce que dans Un homme et une femme, ça s'est passé d'une façon tout à fait particulière, parce que Lelouch voulait justement des chansons.
Des chansons, absolument.
Et que Barreau m'a présenté à Lelouch en disant, voilà, je travaille avec un jeune accordéoniste niçois, et on fait des chansons ensemble, et je vais t'en faire écouter une, et c'était « L'amour est bien plus fort que nous ». Et Lelouch a dit, mais cette chanson, je la veux pour mon prochain film. Et tout est parti de là,
de là. Mais vous avez quand même continué à écrire des chansons, même si vous êtes devenu peut-être plus compositeur de cinéma.
J'ai continué, mais enfin un tout petit peu moins, parce que ça prend beaucoup de temps, la musique de film. Surtout moi qui suis du midi, j'aime bien m'étaler, avoir le temps nécessaire pour penser et puis essayer de donner le maximum de ce que je peux faire.
Alors, on va revenir avec vous, Francis Lay, à quelques-uns de ces souvenirs. Je note encore une petite chose en préambule. Vous savez, je reçois beaucoup d'invités, parfois moins illustres que vous, qui ont tous écrit un ou deux ou trois livres de souvenirs, des mémoires, des anecdotes, etc. Vous êtes un homme relativement discret de ce point de vue-là. Hein. Vous n'avez pas raconté 10 fois votre vie, vos aventures avec Lelouch, avec le monde du cinéma, non. On attend toujours ce livre.
Non, je pense qu'il sera écrit quand je serai plus là, probablement.
Ah bon.
Bon, moi, c'est pas une hantise, hein, attention. C'est pas une hantise, mais j'ai l'impression que quand on écrit un livre et qu'on raconte toute sa vie, j'ai l'impression qu'après, il n'y a plus rien, que c'est la fin. Ça, par contre, c'est redoutable. Alors, j'essaie de reporter à
bien
plus
sûr.
Loin et de vivre encore avec le futur
qui
peut arriver.
C'est pour ça que nous, on fait juste un petit point sur le parcours, qui sera encore bien long, je l'espère, et on va commencer en remontant dans vos jeunes années, avec une voix que j'imagine vous allez tout de suite reconnaître.
Pour tromper l'ennui d'un dimanche, je suis revenue faire un tour au petit guinche, là-bas sous les branches, comme au temps des premières amours. J'en avais perdu l'habitude, et qui sait si j'y reviendrai. Mais les soirs de solitude, bien souvent j'y penserai. Quand j'allais courir le Guilledou à Robinson, il y avait des soupirs un peu partout dans les buissons. Les années font la chaîne et l'on ira sans nous courir la prétentaine et le Guilledou. Je connais la fin de l'histoire, ce sera la même pour toi, valse lente de la mémoire, que l'on danse chacun pour soi, et que l'on soit devenu riche, ne nous consolera de rien. La fortune, je m'en fiche, nous nous en passions si bien. En allant courir le Guilledou à Robinson, où nos souvenirs flottent partout dans les buissons. Réservez la prochaine et dansez-la sans nous. Adieu la prétentaine et le Guilledou.
Le Guilledou. Claude Goati dans une chanson de Bernard Dimet. Francis Lay, évidemment, là, ce sont vos jeunes années. C'est même quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous, Claude Goati, qu'on a un peu oublié aujourd'hui.
Elle a compté énormément parce que si je suis monté, comme on dit, à
Paris. Monté à Paris de Nice, hein, faut
de
le rappeler.
Nice, c'est grâce à Goati. Parce qu'elle faisait des cabarets, elle chantait dans les cabarets. Moi, j'étais musicien d'orchestre. Hein. À Nice, toute la côte, j'étais musicien d'orchestre dans un groupe.
Comme accordéoniste.
Comme accordéoniste, bassiste et percussionniste.
Comment c'était venu d'ailleurs? Vos parents vous avaient poussé dans cette voie? C'était...
Pas du tout.
Pas du tout.
Non. J'avais un cousin virtuose, qui est un tout petit peu l'équivalent de notre Galliano actuel, qui faisait du jazz à l'accordéon et qui m'avait impressionné. Ouais. Et je voulais jouer comme lui. Donc, j'ai commencé l'accordéon avec ce cousin virtuose.
Dans les balles de la Côte d'Azur,
Sur les balles. Je le remplaçais dans les balles où il ne pouvait pas aller. Et dans un cabaret à Marseille, il y a des chanteurs et des chanteuses qui passaient. Un soir, il y a une jeune chanteuse qui me dit « Est-ce que vous voudriez m'accompagner à l'accordéon ?» Je lui dis « Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous chantez comme chanson ?» Elle me dit « Je chante des chansons de Gréco, je chante des chansons de Léo Ferré et tout ça. » Je lui dis « Mais j'adore !» J'adore, je vais essayer, mais c'est avec plaisir. Donc, j'ai accompagné pour la première fois cette jeune chanteuse, et comme j'improvisais beaucoup, elle n'avait jamais entendu ça encore auparavant, elle m'a dit, mais écoute, si j'ai un nom un jour à Paris, c'est toi que je voudrais comme accompagnateur.
Ah, ça s'est fait comme ça.
Et 3 ans après, ouais. Ce qui est fabuleux, j'ai reçu un télégramme, Goati me dit, voilà, ça marche très très fort pour moi à Paris, j'ai des chansons qui marchent, j'ai Mimi Fleur Bleue, j'ai des chansons, qui le Barjolaine et tout ça qui marchent, je vais faire des tournées, est-ce que ça t'amuserait de venir comme accompagnateur à Paris ? Et j'ai pris ce risque-là, j'ai dit bon allez j'abandonne tout, j'ai demandé à mon chef d'orchestre, il m'a dit voilà ce qu'on me propose. Et la chef d'orchestre, puisque c'était Irène Vincent qui était à l'époque chef d'orchestre, elle me dit, mais vas-y. C'est une chance merveilleuse, tu vas découvrir un autre univers. Et
vous,
voilà.
Vous êtes arrivé en quelle année à Paris ?
Qu'est-ce que je vais dire, 50 ? Je ne sais pas.
Dans les années 50 en tout
Allez,
cas.
Dans les années 50 parce que...
Donc dans un Paris et sur une butte Montmartre qui devait avoir encore un peu le parfum de la bohème.
Complètement. Ouais. Complètement. On se retrouvait chez Attilio, la taverne d'Attilio.
Attilio, c'était Place du Tertre ?
Place du Tertre. On se retrouvait tous les soirs, parce qu'il y avait tous les cabarets qui entouraient cette place, et où il y avait chez ma cousine. Et chez ma cousine, il y avait absolument tous les chanteurs et les chanteuses qui passaient. Patachou, Hugo Frey, il y avait Mouloudji, pour qui, avec Dimé, on avait écrit pratiquement tout son tour de chant. Et, comme quoi... Quand la vie, elle veut tourner, elle tourne dans le bon sens, c'est que Piaf voulait que Mouloudji fasse sa première partie de l'Olympia. Et un soir, elle est venue sur la butte Montmartre pour écouter le tour de chant de Mouloudji. Et à la fin du tour de chant, elle a demandé à toute l'équipe de Mouloudji, c'est-à-dire Mouloudji, Bernard Dibé, moi-même à l'accordéon, je ne sais plus, enfin on était 5 ou 6, de prendre un verre chez Piaf. Et elle a dit, amenez votre accordéon parce qu'on va peut-être faire de la musique. J'ai débarqué chez Piaf et on a passé toute la nuit à faire de la musique. Et c'est là où j'ai joué le fameux bestiaire de Paris. C'était un bestiaire qu'avait écrit Bernard Dimé. Ce sont des quatrains. Et Piaf m'a dit, écoutez, j'aime bien votre façon de jouer. Est-ce que vous voudriez être mon deuxième accordéoniste et m'écrire des chansons ?
Alors, on va revenir tout de suite à ces chansons, évidemment, pour Édith Piaf, ça c'est un moment très important, mais vous avez cité déjà au moins 2 fois ou 3 fois le nom de ce grand poète qui était Bernard Dimé. Vous l'aviez rencontré comment, lui ?
Pareil. Là-haut, c'est Attilio qui me l'avait présenté, il me dit, oui. « Oh, je te présente quelqu'un qui écrit des textes fabuleux. » Pour moi, c'était le Lucky Luke de l'écriture.
Le Lucky Luke. Ah, parce qu'il tire plus vite que son ombre.
Il a une vitesse. Il écrivait un quatrain, il voulait que je mette la musique tout de suite. Alors, on faisait des musiques qui ne tenaient pas la route, mais on a fait peut-être 200 chansons ensemble.
Et, c'était une vraie amitié, c'était un personnage aussi.
Ah, mais oui, non, mais attendez, c'était ouais. Plus que ça. C'était, ouais. Il m'éblouissait parce que cette facilité, et puis cette beauté d'écriture, parce que quand même, il écrivait tellement bien. C'était pratiquement toujours des grands poèmes. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des auteurs comme Barou, bien sûr, alors, qui lui...
Barou, on y arrive, mais alors on revient un instant donc à cette soirée chez Piaf, Bernard Dimé, toute la bande à Mouloudji, et puis donc Piaf, finalement, vous devenez un de ses musiciens, un de ses derniers compositeurs et accompagnateurs.
Oui. Ouais, j'ai écrit quelques chansons avec elle.
Ah, vous avez écrit des chansons, vous avez joué sur scène également à l'accordéon auprès d'elle.
Ouais. J'ai joué auprès d'elle et puis on était les 2 accordéonistes parce que il y avait Marc Bonnel qui a été son premier accordéoniste et qui est quand même resté jusqu'à la fin. On était très amis. Il y avait aucune jalousie ensemble. Quand il y avait des improvisations, je les faisais, mais quand il y avait les parties classiques de l'accordéon, c'est Marc Bonnel qui les faisait. Donc il y avait c'était une bonne entente. Et puis le dernier concert quand même qu'on a fait à l'Olympia avec le grand orchestre de Jean Lessia, c'était quand même
quelque chose d'extraordinaire.
Un grand moment. Pour moi, ça a été un moment énorme.
Un mot peut-être de la chanson qu'on va écouter tout de suite, Emporte-moi.
Ah oui, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Parce que celle-là, elle me rappelle bien sûr Jacques Plante. Et voilà, bon, quand on a la chance de pouvoir faire chanter une de ses chansons par la plus grande chanteuse au monde, croyez-moi, c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Parce que j'en demandais pas plus.
À Paris, la nuit, Pigalle s'illumine. Les clients des bars ont des mauvaises mines. Sous les lampes crues, les sourires se fardent. Dans un coin perdu, deux amants se regardent. Les cœurs vieillissent vite sur le seuil des bars, des lèvres vous invitent sous les lampes crues, des souvenirs grimacent dans un coin perdu, nos deux amants s'enlacent. Devient tout rose, le quartier s'éteint, c'est l'heure où l'on arrose. Au dernier bistrot, le patron fait la gueule, une femme au bar chantonne toute seule.
Emporte-moi, une de vos chansons, Francis Lai, pour Édith Piaf. On pourrait citer aussi C'était pas moi, Les gens, Un sale petit brouillard.
Ce sale petit brouillard, oui, qui a été la première. La première chanson. Vous vous rendez compte, quel bonheur.
L'homme de Berlin.
Alors, L'homme de Berlin, ça a été la dernière chanson. Malheureusement, elle n'a pas pu l'enregistrer en studio. Et on n'a fait qu'une maquette. Et donc, ce qu'on entend, c'est une vraie maquette.
Ah oui.
On était avec quatre musiciens. Elle a chanté comme ça, entre nous. Et c'est resté le dernier document chanté de Piaf.
D'avoir été un musicien proche d'Édith Piaf, on peut dire que ça vous avait lancé déjà une première fois avant le cinéma. Francis Lai, ça a changé le cours de votre carrière ou pas vraiment?
Non, pas du tout. Pour moi, c'était... Je ne m'attendais pas à ça au départ. Quand j'ai commencé à jouer de l'accordéon, peut-être mon plus grand désir et mon plus grand rêve, c'était de devenir chef d'orchestre et d'avoir un orchestre.
À propos d'orchestre, vous avez aussi, je crois, dans ses premières années, travaillé avec Michel Magne.
Ah ben oui, ça c'est... Lui aussi, il m'avait donné toutes ses chances avec l'accordéon, parce que j'avais la chance à cette époque-là, justement, qu'il n'y avait pratiquement personne qui jouait de l'accordéon un peu jazzy, comme je le faisais. Et donc, ça avait un peu épaté Magne, qui me disait « Oh non, attends, je vais te prendre dans l'orchestre, et tu vas faire des solos d'accordéon. » Et il y a eu un moment magnifique, c'est que quand il est passé à l'Olympia, j'avais mon morceau à jouer en solo avec l'orchestre. Déjà derrière, mais qui m'a amené sur scène d'après vous? Eh bien, c'était Michel Colombier. Oh, Michel Colombier,
ce grand musicien,
m'a amené sur scène dans une brouette avec l'accordéon. Parce que c'est... Man était fou, hein.
Ah oui?
Attention, il était fou furieux. Hein. Il faisait des choses à laquelle personne n'aurait jamais pensé. Il m'a fait jouer suspendu à 5 mètres du sol, suspendu, jouer l'accordéon, faire l'obade.
Ah oui, c'était pas seulement des concerts, alors c'était les folies bergères.
C'était la folie furieuse. Et moi, j'adorais ça. Pas tout ce qui était un peu farfelu, moi, ça me plaisait parce que à partir du moment où ça devient trop sérieux, trop rigoureux et tout ça, on prend plus tellement de plaisir. Là, le fait d'être suspendu à 5 mètres du sol et jouer une mélodie à Françoise Hardy qui était à la fenêtre, Roméo et Juliette, c'était superbe.
Bon, ce qui est agréable avec vous, Francis Lay, c'est que vous évoquez tous ceux qui vous ont fait avancer, que vous avez aimé avec un enthousiasme, une générosité, une amitié toujours intacte, on sent. Hein, voilà, vous aimez bien parler des autres.
Ah, bah, parce que c'est la réalité.
Ouais.
C'est la réalité. Moi, j'ai passé des moments tellement exceptionnels que je sais que pas beaucoup de personnes ont eu la chance d'avoir. C'est que j'en suis tellement heureux. J'essaye d'en faire profiter les autres aussi.
Alors, rencontre évidemment importante ensuite également. On l'a d'ailleurs reçu ici, voici quelques mois, dans cette même émission, et on avait bien sûr aussi parlé de vous, c'était Pierre Barou, donc, que vous rencontrez au moment où vous écrivez des chansons, et simplement parce que vous êtes compositeur de chansons, sans penser que ça va déboucher évidemment sur le cinéma.
Alors là, ça va être aussi une rencontre fabuleuse, parce que comment j'ai rencontré Barou? Il était venu à l'Alhambra, Maurice Chevalier, écouter De Vos, Raymond De Vos. Donc, en première partie, il y avait bien sûr l'orchestre de Michel Magne, où je jouais. Et donc, un petit gag encore, c'est qu'à un certain moment, je jouais des timbales. J'étais timbalier dans l'orchestre, et il y avait une timbale vide, et dans la timbale, il y avait des sandwichs. Et alors, à un certain moment, bien sûr que je m'arrêtais de jouer des timbales, je m'installais avec une bouteille, et bon, voilà. Et bon, ça a fait rire Barou, et à la fin du spectacle, il est venu me voir, il me dit « Vous savez, je ne vous connais pas, mais il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Mimi Fleur Bleue » et qui est chantée par Claude Goati, que vous accompagnez. » Et j'ai dit « C'est ma chanson préférée. » Et alors il me dit « Eh bien écoutez, ce qu'on peut faire, c'est essayer peut-être de faire des chansons ensemble. » Et là est parti
la bicyclette.
L'amitié, tout de suite, ça a été le départ. Parce qu'on avait plein de points communs. On adorait les bandes dessinées. Dès qu'il y avait un Lucky Luke, ou dès qu'il y avait un Astérix, ou dès qu'il y avait une bande dessinée qui sortait, c'était le premier qu'il avait à aller vers l'autre. Puis on passait des moments, on passait plus de moments à rire avec les bandes dessinées qu'à écrire des chansons. Parce qu'un jour, on a fait le calcul, on a dit... Il dit, tu te rends compte, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, combien de chansons on a écrites ensemble? Moi, j'ai dit, ça doit compter. Et on a compté. En tout et pour tout, je crois, en 3 ans ou 4 ans, on avait écrit peut-être 20 chansons en tout.
Ah oui, vous étiez
ce qui
pas
était
des,
ridicule.
Des grands travailleurs. Non, hein.
C'était ridicule.
Vous avez dû être content quand même quand Yves Montand a enregistré à bicyclette.
Ah ben oui, non, mais ça aussi, c'est un, ouais, c'est un cadeau. Ça, c'est un grand cadeau.
Ouais.
Pierre a joué au Boule, je crois, avec Montand à Vence, à Saint-Paul-de-Vence. Et puis je crois qu'un jour, il lui a fait écouter c'était une cassette.
Ouais.
Et Montand a flashé dessus, et puis il a dit « Ah, moi, j'aimerais bien l'enregistrer ». Et puis voilà, c'est parti. Voilà. C'est parti. Alors qu'au départ, cette chanson avait été écrite pour une publicité,
ah bon,
je crois. Oui, 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 c'était un truc...
Pour les vélos?
C'est encore une... je ne sais pas, mais c'est encore une aventure.
On lui demandera.
Oui, il faut lui demander. Ouais.
En tout cas, vous vous rappelez le jour, j'imagine, où Pierre Barou vous a présenté Claude Lelouch?
Ah ben oui. Lelouch tournait un film qui s'appelait Une fille et des fusils.
Ouais.
Et puis... Barou me dit, écoute, viens un jour au tournage, tu vas voir, je suis en train de tourner avec un jeune metteur en scène qui est complètement allumé, et je débarque, il me dit, amène ton accordéon à tout hasard. Ouais. Il tournait, il me dit, on tourne au marché aux puces, viens nous voir. Et j'arrive au marché aux puces avec mon accordéon sur le dos et tout ça, et puis je cherchais, moi je m'attendais, vous savez, cinéma, je m'attendais à des projos partout, des trucs... Je voyais pas grand-chose, pas de metteur en scène, pas de caméra, rien et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis tout d'un coup, sous une table, il y a Une espèce de monsieur qui sort avec la caméra sur l'épaule et il s'arrête et il dit « C'est génial !» C'est le premier mot que j'ai entendu de Lelouch. « C'est génial !» Et Barro me dit « Ben voilà, tu vois le metteur en scène avec qui je tourne, c'est monsieur. » Et il m'a dit « Ben écoutez, venez chez moi et on va faire un peu de musique et tout ça. » Et voilà, puis ça a fonctionné tout de suite.
Ça a fonctionné tout de suite.
Et ça fait cette année, en fait, notre cinquantenaire.
Votre cinquantenaire à tous les deux, de cette rencontre merveilleuse, qui a tant fait pour le cinéma. Bah, écoutez, je vous propose une petite pause musicale. On va écouter alors d'abord À bicyclette, mais version moderne, peut-être, vous le dites, ça vous dirait ?
Oh oui, c'est sympa, ouais, j'aime beaucoup Laurent. Ouais.
Et puis, on va enchaîner quand même avec un petit extrait de la musique d'Un homme, une femme. On ne peut pas l'éviter. Je ne sais pas, peut-être vous en avez marre qu'on vous le passe tout le temps, non ?
Non ? Non, mais de toute façon, j'en ai pris mon parti. Hein.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
Passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love, and in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise? Not afraid to take a chance, really take a chance, let your
Et bien sûr, on a reconnu un homme, une femme, mais vous voyez, on a quand même cherché autre chose que la version habituelle. Francis Lai, c'était la grande Ella Fitzgerald. Ça, vous avez dû être heureux, là encore, je parlais de mon temps tout à l'heure, mais encore plus quand vous avez, Ella Fitzgerald a enregistré cette chanson.
Oui, non, mais c'est toujours ça, c'est toujours ça, c'est toujours la belle récompense, c'est celle-là. Ouais. C'est de se dire, bon, on a écrit trois notes et elles sont chantées par la plus grande chanteuse de jazz au monde. Faut vous rendre compte.
Mais d'autant plus que ces trois notes, c'est pas du tout celles que vous aviez mis en avant auprès de Claude Lelouch quand vous commenciez à travailler ensemble au film, qu'il fallait choisir des musiques. C'était pas ces trois notes-là au départ.
Hein. Non. Bah, parce que je venais de recevoir un accordéon électronique avec un son fabuleux qui n'existait pas. Et ce son, j'ai essayé de m'en servir parce que ça portait, ça donnait une nouvelle couleur et un univers totalement différent. Mais quand Lelouch m'avait dit, bon, après avoir écouté L'amour est bien plus fort que nous, il me dit, est-ce que ça vous amuserait d'écrire toute la musique du film? J'ai dit, ça c'est une chose que je n'ai jamais faite, mais je veux bien prendre le risque et essayer au moins. Et il me dit, bon, allez-y, et puis quand vous avez des thèmes, vous m'appelez et on se fait une réunion de travail. C'est ce qu'on a fait. Et je lui ai fait écouter des thèmes, et il me disait...
Il les notait, je crois,
il notait de 1 à 10, hein. Ouais, il les notait, voilà, il me disait, ça. Ouais. Il me dit, ouais, c'est bon, ils sont pas mal, mais j'ai pas le fil rouge. Et puis au moment, il me dit, écoute, et cherche encore. Et puis il était sur le pas de la porte, et j'ai dit, Claude, j'ai encore un thème, mais j'ai que le départ du thème, parce que c'est la séquence que vous m'avez racontée avec Jean-Louis Trintignant et tout ça. Il me dit, mais joue-moi. Et je lui joue les trois, quatre notes, là.
Dabba,
il me dit,
dabba,
mais attends. Rejoue-moi ça. Il me dit, ben voilà, c'est ça le thème du film. Il me dit, c'est ce que je cherchais.
Pour vous, c'était qu'un début de thème.
Ben, c'était un début, ouais. C'était un début. Mais quand vous avez un début qui tient la route, la suite vient toute seule.
Ce qui est amusant aussi, c'est que ça devait normalement être joué à l'orchestre.
Ah oui. Claude ne tenait pas trop parce que il voulait quelque chose de beaucoup plus intimiste et beaucoup plus, puisque les personnages avec Trintignant et Anouk étaient quand même, c'était pas Hollywood. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'orchestration n'était pas prête pour l'enregistrement. Au studio, on avait 60 musiciens qui attendaient et on n'avait pas les partitions.
Ah.
Et donc là, c'était assez...
Et Lelouch n'était pas content.
Lelouch était loin d'être content. Et alors, ce qu'il a dit, il a dit, bon, messieurs, je suis désolé, mais vous allez prendre un café et on va faire autrement. Et donc, on a gardé Maurice Vander, piano, un bassiste, un batteur, mon accordéon électronique magique, Croisy, qui était
Nicole
là.
Nicole Croisy, voilà.
Et Barou. On était tous les six, j'ai fait des grilles, et on a joué pratiquement tous les thèmes, comme ça, presque à l'improvisation. Et ça a donné ce qu'on entend maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de couleur qui n'existait pas à l'époque.
C'est comme les grandes découvertes qui se font par hasard quand un savant oublie quelque chose dans son réfrigérateur.
Voilà, ça a été
le hasard.
Ouais, le hasard. Ah oui, la symphonie du hasard, elle porte bien son nom.
Alors, évidemment, bon, je reviens pas sur le succès phénoménal du film. Là, pour le coup, vous étiez vraiment lancé comme compositeur de chansons, de musique de film, également, je dirais même associé à la naissance de ce label Sarava avec Barou, qui a suivi immédiatement. Mais on aurait pu imaginer que vous suiviez, comme Vander, comme Delru, comme Legrand et d'autres, le chemin tracé de beaucoup de compositeurs français vers Hollywood. Alors ça ne s'est jamais produit, notamment pour une raison, c'est que vous avez horreur de l'avion.
Ah, ça, c'est une des raisons premières. Parce que
vous avez été sollicité tout de suite.
Oui,
hein,
bien sûr. Voilà. Il voulait que je signe un contrat avec, je crois que c'était Universal, et que je fasse trois films par an là-bas, chez eux.
Ouais.
Et j'ai dit, je ne prendrai jamais trois fois l'avion dans l'année. Une fois, ça suffit. Donc, bon, c'est un tout petit peu de l'inconscience. Hein. De l'inconscience. Et puis, moi, je me sentais bien avec toute ma famille ici. Je suis niçois.
Vous n'avez pas le rêve américain absolu.
Non, puis d'autant plus qu'après, il y a eu toute l'évolution avec la nouvelle technologie où il n'y avait plus besoin de voyager. On va envoyer les bandes par Internet et tout ça, donc il n'y avait plus ce grand problème.
Mais néanmoins, pour s'éloigner un instant un peu de Claude Lelouch, vous avez quand même donc écrit la musique de Love Story, C'est en 1970, c'est un immense succès. Donc vous l'avez écrite sans vraiment vous déplacer.
Sans me déplacer. Ouais. Je vous raconte l'anecdote parce que c'est encore une histoire un tout petit peu farfelue encore. On m'a appelé plusieurs fois pour ce film. Ouais. On me disait, bon, c'est une love story. Love story, pour moi, c'est une histoire d'amour. Et jusque-là, je n'avais fait que des histoires d'amour en musique. Ouais. Alors j'ai dit, une histoire d'amour en plus, bon, ok. Et puis un soir, il y a Delon qui m'appelle et il me dit, et je suis avec le producteur du film Love Story, et il voudrait absolument que ce soit vous qui fassiez la musique parce qu'il a écouté une musique que vous aviez faite pour un certain film, et c'est ce qu'il voudrait comme atmosphère pour ça. Je lui dis, oui, non, mais moi, je prends pas l'avion. Alors, Delon se tourne vers le producteur, et il dit, voilà, lui, il veut pas prendre l'avion pour visionner le film. Et il me dit, eh bien, écoutez, on va prendre les bobines, et on va aller chez toi, parce que Delon avait une salle de projection, on va lui montrer le film chez toi. Vous vous rendez compte, quelle inconscience. Ils sont débarqués avec les bobines. Ils m'ont montré le film le soir chez Alain Delon. Je suis sorti, bien sûr, j'étais en larmes. Je suis arrivé ici, je me suis mis devant le clavier. J'ai trouvé les premières notes de la musique. Et ensuite, je suis allé beaucoup plus loin dans le délire. C'est que je leur ai dit, au mois de juin, juillet, moi, c'est sacré avec mes enfants. Ça, c'est sacré, je suis à Nice. Et ils ont accepté. Ils ont loué une Moviola à Nice avec un ingénieur qui venait pratiquement tous les jours pour me montrer les séquences. Et j'écrivais au fur et à mesure la musique là-bas. Ils venaient, ils se sont installés au camp d'Antibes. Et toutes les semaines, ils venaient écouter ce que j'avais fait pour avancer. Parce que le film devait sortir en septembre.
Ça, donc, c'est le grand luxe. Que ce soit prêt.
Ouais, non, mais attendez, c'est pas du luxe. C'est de la bêtise la plus totale.
Ah oui, ça vous a quand même valu un Oscar. Hein.
Heureusement que ça a marché, parce que ça aurait été dramatique. Ouais, ouais. Voilà.
Avec ce film, d'ailleurs, il s'est passé comme avec d'autres films, alors quelque chose qui vous est arrivé à propos de chansons, c'est-à-dire que vous écriviez des thèmes, et puis ensuite, c'était les thèmes de films qui devenaient aussi des chansons à succès.
Oui, ça, c'est un peu le hasard aussi.
Il y a notamment Mireille Mathieu, là, dans ce cas précis.
Oui, oui, c'est Mireille, et c'est surtout Andy Williams qui l'a fait là, en premier aux États-Unis.
Oui, oui.
C'est des mélodies qui peuvent...
Qui ne sont pas écrites comme des chansons, mais qui deviennent des chansons populaires.
Qui peuvent devenir, voilà, qui peuvent être transformées, qui peuvent être mises en chansons.
Je le disais aussi, pour citer le nom de Mireille Mathieu, parce que c'est vrai que souvent en France, on la regarde un peu de haut. D'ailleurs, comme quelquefois Claude Lelouch dans le monde du cinéma aussi, qu'on regarde quelquefois un peu de haut. Ça vous agace tout ça, ces étiquettes un peu méprisantes?
Ça m'énerve vraiment.
Ça vous énerve?
Parce que cette fille, elle chante superbement bien. Ouais. C'est la seule qui représente la France comme il faut. Vous allez en Chine, c'est une super vedette. En Allemagne, c'est vraiment le top des tops. Et nous, en France, ouais, on la dénigre.
Je trouve ça pas bien.
Ouais. Je trouve ça pas bien parce que, bon, elle a quand même une sacrée voix. Et puis en plus, cette fille, elle travaille comme une dingue. Vous savez qu'elle chante en chinois, elle chante en japonais, elle chante en russe. Et puis on l'ignore. Non, moi, je suis pas d'accord. Là, je suis sûr que je suis.
Ben merci de le dire, c'est important.
Non, il y a des choses qui sont pas logiques. Voilà.
Alors on va revenir à votre façon de travailler, mais on va peut-être refaire une pause musicale avec. Alors on est toujours là à la fin des années 60, à l'époque de Love Story, le concerto pour la fin d'un amour, très belle page aussi. Vous nous dites un mot avant qu'on l'écoute.
Ça reste une des séquences magiques des films de Claude. Pour moi, l'association du concerto pour la fin d'un amour avec tout le regard d'Annie Girardot qui attend Belmondo qui ne va pas venir, c'est un moment de musique et cinéma qui est vraiment assez rare. Voilà. C'est, pour moi, ça reste un élément très, très, très porteur. Ouais.
Francis Lai, 1969, concerto pour la fin d'un amour, donc cette page musicale, à laquelle vous avez d'ailleurs donné le nom de concerto, c'est pas par hasard, donc extraite du film Un homme qui me plaît. Ça a vu le jour dans votre studio, cette musique, comme tant d'autres,
ouais.
Francis Lai?
Oui. Ben, je fais tout là. Hein.
Je fais tout là. Alors, je dois la faire donner une petite explication aux auditeurs. Hein. On est chez Francis Lai, donc il y a beaucoup d'appareils, d'amplificateurs, de consoles, etc. Mais il y a au centre... un clavier d'accordéon qui est mis à plat avec d'un côté la main gauche, de l'autre côté la main droite, et qui est relié à toutes vos machines, à tous vos sons. Et donc c'est là-dessus que vous travaillez, sur votre clavier d'accordéon, j'ai envie de dire, d'origine.
Voilà, je travaille là-dessus alors que je ne me sers pratiquement pas des basses.
Oui.
Comme j'ai la chance d'avoir le clavier à plat, je peux faire, comme sur un piano, je peux faire mes accords à la main gauche et à la main droite. Je me sers de ça comme un clavier maître, un vrai clavier maître. Les basses, je m'en sers pratiquement pas.
Et donc, à partir de ce clavier, de ces sons, vous faites votre découpage du film, vos musiques, avec déjà un peu les couleurs d'orchestre, quand même.
Le point de départ, c'est vraiment d'essayer de trouver une mélodie.
Un thème.
Voilà, un thème. Parce que ça, c'est vraiment la base de tout. Quand on est arrivé à trouver un thème qui tient la route, si le thème tient la route dans tous les styles, je pense que ça peut aller plus loin.
Un thème qui est un bon thème, c'est un thème qu'on retient tout de suite.
Et qu'on retient tout de suite, mais avec une originalité.
Ouais.
Voilà. Ça demande du temps. Moi, je prends un temps fou. Hein.
Pour la simple mélodie.
Pour la simple mélodie et l'harmonie.
Ensuite, vous travaillez aussi, vous en parlez volontiers, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des arrangeurs.
Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, ce sont des personnes qui sont des grands musiciens, qui connaissent toutes les astuces de l'orchestration.
Ouais.
Et
vous n'avez pas de honte à partager le travail avec eux.
Au contraire, je me régale. Et puis en plus, je me régale quand un arrangeur me dit, tiens, j'ai trouvé ça, est-ce que ça te plaît ou des choses comme... Ouais, non, je suis ravi de travailler avec...
Il faut citer Christian Gobert d'abord.
Christian Gobert, ça a été,
le partenaire
le déclencheur. Ouais.
Très, très nombreux enregistrements.
Oui, surtout le premier, hein, le premier avec qui on est parti, c'était Vivre pour Vivre, où il y avait un travail d'orchestration absolument faramineux. C'était superbe. Donc après, ça a continué.
J'ai même entendu que vous répartissiez un petit peu selon les styles. Il y avait Christian Gobert, mais il y avait aussi Yvan Julien pour des choses un peu plus jazz justement.
Oui. Ensuite, il y a eu également Romanelli pour tout ce qui est un peu accordéon, parce que c'est un tel virtuose. C'était un régal de travailler avec Roland. Et puis, surtout, Jean Musy.
Et Jean Musy.
Jean Musy.
Alors, parlez-nous un peu de Jean Musy. Au fond, on n'a encore jamais parlé de lui dans cette émission. Je suis sûr que Serge Laïc nous fera un jour une chronique sur Jean Musy. Mais c'est un
Jean Musy, c'est un aussi. C'est un musicien important et c'est un musicien d'une sensibilité rare.
Ouais.
Quand il joue du piano, il fait trois notes et vous savez que c'est Jean Musy. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que c'est rare d'avoir les pianos. C'est rare. On dit, oh, je joue du piano. Les pianos, c'est tous les mêmes. Non.
Vous avez retrouvé, alors, sur votre chemin, je dirais de façon posthume, quelques années après avoir travaillé avec elle, Edith Piaf, avec Charles Aznavour, à l'occasion du film. Edith et Marcel, ça a dû être un peu étrange pour vous de retrouver, vu par la fiction et l'imagination, le monde d'Edith Piaf.
Ben, c'était revivre un tout petit peu le passé.
Ouais.
C'était revivre un tout petit peu ce que j'avais connu. Non, ça a été un moment aussi de création, parce que...
Vous connaissiez Aznavour?
Je le connaissais très peu, je l'avais pas connu de toute façon quand il était avec l'équipe de Piaf, ça je l'avais pas connu. Il a écrit les textes des deux chansons, hein. Pour moi ça a été un privilège d'écrire une chanson avec Aznavour. Ensuite il la chante en plus, avec Mama Béa.
On va l'écouter.
Et ouais, c'est...
Vous êtes allé voir La Môme après?
Oui, bien sûr.
Ça vous a paru bien aussi
D'accord,
vous jouez pas l'un contre l'autre.
Non, c'est des hommages extraordinaires et c'est bien que ça dure parce que là, bon...
Quelle légende, cette Edith Piaf.
C'est une vraie légende, ouais.
Je n'attendais que toi, moi cigale en amour, le cœur à la dérive. Aimant au jour le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Viens, serre-moi très fort, blotti entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Printemps découvert, mes rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi en cherchant dans l'espoir la force de survivre. Quand mon cœur était noir, que mon âme avait froid pour commencer à vivre. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. J'y
Je n'attendais que toi, moi rêvant d'absolu de choses impossibles. Moi venant de la rue qui espérait mon roi, ce héros invincible. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi, quand tu es arrivé, tu n'as eu qu'un sourire. Tout s'est illuminé, j'ai connu la joie d'aimer comme on respire. La vie d'hier, et ton cœur sur mon cœur, tes lèvres sur ma chair, et tes mains sur mes hanches.
N'attendais que toi, espérant nuit et jour qu'enfin mes joies s'abreuvent aux sources de ta vie pour y puiser ma foi et me réveiller neuve. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi.
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 Je n'attendais que toi,
je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi,
je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi,
je n'attendais que toi.
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 Je n'attendais que toi,
je n'attendais que toi.
Nous n'attendions que toi,
nous n'attendions que toi.
Je n'attendais que toi, c'était Charles Aznavour avec Mama Béa dans une de vos chansons, Francis Lay. La chanson donc pour le cinéma. La chanson d'ailleurs au cinéma, c'est quelque chose finalement qui existe depuis que le cinéma parlant existe et qui dure. Et vous aimez ça quand une chanson arrive dans un film, hein?
Oui, parce qu'elle retrace, en fin de compte, c'est un raccourci
du
film. Surtout quand c'est des auteurs comme Barrault, Dibé ou Boris Bergman, avec qui j'ai fait énormément aussi. Boris Bergman écrit merveilleusement bien pour le cinéma, les chansons de cinéma. Oh,
et puis parfois au cinéma, on peut faire chanter quelqu'un qui n'est pas forcément un chanteur.
Mais aussi.
Dont il va sortir quelque chose quand même.
On peut faire des expériences également.
Je voudrais revenir rapidement à quelques-uns des autres cinéastes avec qui vous avez travaillé, hors Lelouch. D'abord à vos débuts, ou presque encore, une grande figure du cinéma classique français, René Clément, avec qui vous avez fait quelques musiques.
Oui, quand on a des pointures comme ça, de haut niveau, on se demande toujours pourquoi vous faites partie de leur univers. Moi,
il aimait la musique, lui aussi. Hein,
il aimait beaucoup la musique, beaucoup, parce qu'on a passé des soirées à écouter de la musique. Il venait là avec sa femme et à la préparation de la course du lièvre à travers les champs et surtout le passager de la pluie, bien sûr. Voilà.
Autre nom que j'ai noté, alors là, c'est très personnel, c'est parce que moi, j'adore la comédie italienne, le cinéma italien, et j'ai vu que vous avez travaillé aussi avec Dino Rizzi.
Ah oui. Mon idole.
Ah, vous aussi?
C'était mon idole.
Ah, moi aussi.
Mais c'était mon idole. Les premiers films de Rizzi.
Le
fanfaron.
Les monstres.
Mais bien sûr. C'était mon idole.
Alors,
et le jour, il m'appelle, il me dit « J'aimerais bien faire un film avec toi. » Je dis « Je ne crois pas. » Il me dit « Je ne crois pas. C'est un rêve ou je tombe d'une autre planète ?» Il me dit, si, ho voglia di fare una musica con te. Il me montre Âme perdue, et voilà, et j'ai fait ça. Ça aussi, c'est un grand moment.
Ah oui.
C'est un grand moment. Ouais. Pourquoi il y a ces espèces d'atomes qui se rejoignent un jour ou l'autre, sans savoir pourquoi. Là, jamais de la vie, j'aurais pensé qu'un jour, je puisse faire un film avec Rizzi, vu cette passion que j'avais pour son cinéma. Voilà, et c'est arrivé. Donc, en fin de compte, j'ai un itinéraire d'un musicien vraiment très gâté. Voilà.
Alors, justement, ça tombe bien, parce que j'aurais voulu qu'on écoute un film qui, je sais, parmi les nombreux films que vous avez fait avec Claude Lelouch, je vous tiens très à cœur, c'est justement L'itinéraire d'un enfant gâté.
Ouais, parce qu'il est venu aussi très bizarrement, celui-là. Parce que quand il m'a raconté l'histoire du film, que j'ai trouvé extra, mais quand il était sur le pas de la porte et qu'il me dit « Tu sais ce que je voudrais comme musique ?» Et j'ai dit « Non, tu vas me le dire. » Il me dit « Je voudrais une musique de cirque symphonique. » Et il est parti. Et il m'a laissé comme ça. J'ai dit « Merci, parce que là, si vous saviez que j'ai pu ramer, je ne savais pas quelle direction prendre. Le symphonique, le cirque, tout ça. Et il fallait que ça soit un mélange. Et j'ai cherché, jusqu'au jour où j'ai trouvé ce gimmick. Tac-da-dan, 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 tam. Bon, bon. Et puis, en cherchant une mélodie, un tout petit peu, effectivement, un tout petit peu cirque, les deux se sont mélangés par hasard. Hasard ou coïncidence, j'y crois de plus en plus, hein.
L'orchestrateur, là, c'est...
Ah, c'est Christian.
Christian Gobet. Itinéraire d'un enfant gâté, Claude Lelouch, 1988, évidemment, toujours votre musique, Francis Lay. Là, c'est de la musique de cirque symphonique, et à propos de musique symphonique, et un hommage vous a été rendu en 2014 aux Invalides avec un grand orchestre symphonique.
Ah, mais c'est un hommage qui a été rendu à Lelouch et à moi.
Oui.
Ça a été un grand moment.
C'était bien pour vous.
Déjà aux Invalides, déjà. Ça représentait déjà quelque chose d'assez particulier.
Mais alors, vous aviez repris les thèmes et les orchestrations originales des films ?
Non, tout avait été refait pour l'occasion. C'est-à-dire qu'il y avait les plus belles séquences d'images de Lelouch,
ouais.
Et en synchro, ouais. Toutes les musiques, bien sûr, qui allaient avec ces images, mais tout a été refait de A à Z par le jeune chef d'orchestre
Nicolas Guiraud.
Nicolas Guiraud, oui, absolument. Anne Groen, qui s'était occupée de l'orchestre à cordes. Et puis ça a été une belle soirée.
Voilà. Et ça ne vous a pas donné envie de publier ou de faire circuler comme ça dans le répertoire des suites symphoniques, comme font pas mal de compositeurs de musique de film?
Non, j'ai pas eu,
c'est comme d'écrire une biographie.
Vous ne pensez pas à ce genre de choses. Peut-être que c'est une idée à creuser, peut-être. Ouais. Non, mais il y a des choses à faire en musique. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais quand les choses se présentent comme ça, à l'imprévu, c'est ce que je préfère le plus. Voilà.
Alors, Francis Lay, malheureusement, le temps passe trop vite. On est bien à bavarder avec vous. Ça pourrait durer des heures. Je voudrais quand même juste passer quelques mesures d'une musique que tout le monde connaît, mais peut-être après tout, tout le monde ne sait pas que c'est de vous. C'est le générique du cinéma de minuit. Le cinéma de minuit, vous vous rappelez comment vous l'avez écrite, cette belle musique qui est restée tellement dans tous nos esprits, dans toutes nos mémoires?
Ah ben merci déjà pour le compliment, mais c'est la première fois où c'est une commande.
Ah, voilà.
Voilà, c'est une commande. C'est
de l'ORTF.
Un éditeur de musique qui m'appelle, il me dit, voilà, on va faire des génériques pour FR3. Est-ce que ça vous amuserait de tenter l'expérience? J'ai dit, bon, je veux bien tenter l'expérience. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une dizaine de compositeurs qui étaient sur l'affaire. Et je ne savais pas ça. Moi, je pensais qu'il m'a plu.
Vous, Francis Lay, quand même.
Non, pas du tout. Je faisais partie du lot. Et puis, un matin, il m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ben, c'est votre thème qui a été choisi. Alors, je lui dis, je vous remercie infiniment. Et puis, il m'a dit, par contre, maintenant, il va falloir tout orchestrer parce qu'il va falloir faire une version de ce thème-là pour les informations, pour le cinéma, pour les enfants, il faut des thèmes pour les enfants et tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait habiller la chaîne de A à Z. Donc il a fallu que je me fasse tous les génériques. Et j'ai fait tous les génériques.
Mais alors qui a orchestré
là? FR3. Bien sûr, Jean Musique, qui faisait partie de l'aventure.
Ah, voilà, en tout cas, quelque chose qu'on n'est pas non plus près d'oublier, ni le reste. J'ai vu d'ailleurs, Francis Lay, que vous êtes un, comme on dit aujourd'hui, un compositeur culte pour pas mal de musiciens de beaucoup plus jeunes générations à travers le monde. Je pense par exemple à J.J. Johansson qui vous cite sans arrêt. Je pense aux rappeurs de Black Attack aux États-Unis, tous qui reprennent vos thèmes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, c'est très flatteur.
Eh ben oui.
Le fait que ces jeunes apprécient les quelques notes que vous faites, et puis bon, avec, c'est vrai qu'il faut des éloges auxquels je ne m'attendais surtout pas. Bon,
ça vous dérange pas qu'on arrange vos thèmes, qu'on les remixe?
Pas du tout. Non, ça les fait revivre.
Ah, oui.
C'est une autre vie. C'est une autre vie, mais une vie actuelle et future.
Ouais.
On me dirait, Mozart et Beethoven, ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais moi, j'en ai besoin.
J'ai noté aussi un petit détail, ça pourrait paraître anecdotique, mais vous, le musicien d'un homme, une femme, en fait, vous avez surtout écrit des chansons pour les femmes, hein, plus que pour les hommes. Si on met longtemps à part.
Oui, non. J'ai été un passionné, un passionnel, et je reste. Ouais. Je trouve que la femme, c'est la plus belle muse inspiratrice qui existe au monde, voilà.
En ce moment, vous travaillez à quoi? Un film, une chanson, des films?
Le prochain Lelouch, on attaque le prochain Lelouch. Je ne connais pas le titre encore.
Vous n'avez jamais pensé tous les deux à faire, pourquoi pas, une vraie comédie musicale?
Oui, bien sûr.
Ça paraît tellement évident au bout du...
En fin de compte, depuis des années, des années, des années, c'est un tout petit peu ce qu'on aurait voulu et ce qu'on voudrait faire.
Bah alors, c'est une comédie musicale.
Et on fait des tentatives. On a fait des tentatives. La première tentative qu'on a faite, on l'a faite avec Le Voyou.
Oui.
Pratiquement dans tous les films, il y a toujours une séquence musicale qui inspire un peu la comédie musicale. On parlait de Des Heures et des Autres, pareil. Il y a toute une séquence avec Croisy, où c'est un ballet.
C'est pas loin.
L'envie, on n'est pas loin. Il va falloir le grand déclic.
Merci, merci Francis Lay beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé chez vous. On s'y sent bien. On pourrait finir avec 1 plus 1, ça vous irait?
Ah ben ouais. C'est parce que c'est un des beaux films, un grand film de Lelouch. Ouais, vraiment, c'est avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous sur France Musique.
C'est moi qui vous remercie.
Un plus une, la dernière musique de film de Francis Lay pour son ami Claude Lelouch, que nous avons longuement évoqué également au cours de cet entretien. Je pense que vous avez goûté, tout comme moi-même et toute l'équipe de France Musique, ce moment très sympathique en compagnie d'un homme de 84 ans qui ne fait pas du tout son âge. Et puis si vous voulez retrouver ces musiques, eh bien elles sont un peu partout évidemment. Je vous signale quand même l'apparition toute récente d'un coffret Francis Lay Anthologie 7 CD chez Playtime FGL Productions.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et je vous l'ai dit, nous allons terminer cette émission avec des voix chantées, mais aussi des voix parlées. Je m'entretenais l'autre jour avec une fidèle de cette émission, justement, qui adore ces voix du passé, ces voix d'artistes, de chanteuses, qui ont des couleurs un peu disparues aujourd'hui, qui ont une verve, une gouaille. Et je me suis dit que j'allais vous en ressortir quelques-unes pour terminer le programme, quelques-unes tout à fait extraordinaires, à commencer par l'irrésistible Miss Tinguette. Alors, on commence, et puis ensuite, elle va chanter un petit peu par cet entretien de 1944, où elle évoque son passage au début de sa carrière sur certaines scènes de théâtre.
Et c'est sur cette même scène du boulevard de Strasbourg que vous avez pour la première fois joué la comédie, Miss.
Oui, oui, une petite fantaisie que j'ai créée aux côtés de Dranem, qui était déjà une vedette à cette époque. Le titre était « Tête à l'huile ». Mais c'est un peu plus tard, dans une revue de Rip et le Vilmetz, au Bouffe Parisien, que j'ai effectué ma première vraie création. Ah, celle-là, je ne l'ai jamais oubliée. J'étais la môme Flora. J'étais une poule botte, quoi, une brave fille, à la fois comique et pitoyable.
La môme Flora, on sait déjà, Miss, le type de ces héroïnes populaires que vous avez personnifiées avec tant de talent.
Ah, peut-être.
Mais oui.
Et l'année suivante, Emma, ça fut au Moulin Rouge avec Max Derly, la valse chaloupée.
Ah, encore une création inoubliable, qui vous a rendu célèbre aussi bien en France qu'à l'étranger.
Alors je quitte naturellement. Je quitte le music hall pour faire du théâtre. Au gymnase, je crée le rôle de Vivette dans L'âme de Buridan. Puis Fernand Samuel m'engage pour 4 ans aux variétés.
Aux variétés, vous allez débuter dans Les Midinettes, la charmante comédie de Louis Artus. Aux côtés, voyons, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait La Vallière, Jeanne Granier, Brasseur, Guy.
Oui.
Max Derly, qu'on est là.
Ah, bah vous avez de la mémoire. Dites donc, vous avez remarqué que depuis que je parle théâtre, je parle pas la même chose que quand je parle music hall. Vous ne trouvez pas la voix est plus grave?
Ah, oui.
Elle parle théâtre.
La langue classique.
Oui, je joue la comédie.
C'est ça.
Après, je fais du cinéma. Mais il a bien fallu que je retourne au music hall. C'était bien plus fort que moi, ça. Car moi, je l'adore, le music hall.
Eh bien, oui.
Comprenez, moi, j'aime les flonflons, j'aime l'orchestre, j'aime la danse, j'aime tout ça, moi. Oh, oui, je veux bien...
Miss, vous allez nous prouver que vous adorez le music hall en nous chantant une chanson. Vous voulez bien?
Oh, bah oui, je veux bien. Dis donc, Joe, tu es prêt? Oh, vas-y, d'une belle grande ritournelle. Tu comprends que j'ai l'air de descendre des escaliers avec des grands chapeaux, des flonflons, des plumes et tout ça. Ça y est, tu y vas. Allez, hop, une, deux. On m'a trouvé rue Mouffetard un beau soir sur le bord du trottoir. J'avais les cheveux frisés comme des baguettes, un petit nez en trompette. Quand j'étais môme, je vendais les journaux, demandais la tronche, le dos. Mais comme j'ai une belle voix maintenant sur tous les tons, dans les cours, je chante ma chanson. C'est le refrain qu'on chante nuit et jour dans tous les faubourgs. C'est la chanson qui met dans tous les cœurs un peu de bonheur. À chaque fenêtre, on lance une par deux tous les amoureux. Se murmure à leur tour ma belle chanson d'amour dans tous les faubourgs.
Miss Tinguette qui, comme elle nous le disait elle-même, descendait donc les grands escaliers. Là, c'est évidemment la reine du music hall qui nous a raconté ses débuts. Alors maintenant, on va changer complètement de décor. On va plutôt dans les antichambres, dans les alcôves et surtout dans les loges de concierge avec ma seconde invitée, si j'ose dire, c'est Pauline Carton, la merveilleuse concierge du théâtre et du cinéma français, la grande amie de Sacha Guitry, qui a elle aussi une voix incroyable, une voix éraillée. D'ailleurs, elle chantait pas très bien, mais elle s'en moque elle-même parce qu'elle a quand même beaucoup chanté dans les opéras. Elle évoque également ses débuts.
Ma première chanson, vous savez, monsieur, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de choix dans mes chansons pour la bonne raison que je chante à peine, je chante comme une corde à puits, vous n'ignorez pas ça.
Non,
mais enfin, ma première chanson, c'était dans une pièce de Labiche qui s'appelle Moment Sabouleux. Je n'avais pas tout à fait 6 ans et je chantais en arrivant en scène dans le rôle de la petite fille de Moment Sabouleux. Je chantais quand je fus bien sage toute la semaine, que dans la soupe j'ai promis trop de sel. Moment Sabouleux le dimanche me mène dîner aux pompiers éternels. J'étais tellement petite que je m'accoudais sur le litre de vin rouge que j'apportais en scène comme accessoire.
Oh là là, et les spectateurs étaient contents, ils étaient chauds.
Oh, comment ils étaient chauds? Ils étaient bouillants, ils étaient torrides. Pensez donc, c'était nos parents.
Oh,
mon père, ma mère et puis ceux des autres acteurs, ça se passait dans l'antichambre de chez moi.
Oui. Enfin, ça, écoutez, c'est une chanson d'amateur, ça.
Ah oui, c'est du théâtre, enfin, de... Théâtre de famille.
Théâtre de famille. Mais alors, votre première chanson en tant que chanson professionnelle, si j'ose dire.
Ah, comme professionnelle. Eh bien, écoutez, c'était ici, à Marseille. J'ai débuté il y a 33 ans, dans toutes les utilités en cours. C'était au théâtre du gymnase et nous jouions naturellement des comédies, des vaudevilles, mais il y avait toujours une chanson, non pas dans ces pièces qui étaient gaies, mais dans les pièces tristes, dans les drames. À ce moment-là, dans chaque drame, il y avait une petite chanson. Et je me souviens que dans Les Crochets du Père Martin, je chantais avec mes camarades, je chantais encore une chanson incroyable. J'arrivais et le personnage que je jouais s'appelait Pauline. C'était une étaillire. Oui, comme moi. Seulement, c'était une étaillire, pas comme moi. Une étaillire de 1840, figurez-vous. Alors, j'arrivais en donnant le signe du désordre et de la vie facile. Je disais, eh ben, tant pis, j'ai mangé trois babas. Et après, nous chantions une chanson très curieuse. Nous chantions, en guise oiseaux de passage, profitons de nos 20 ans. Je ne sais pas si vous vous représentez des oiseaux de passage qui profitent de leurs 20 ans. Ça doit être un peu déplumé. Et ça finissait par vive champagne et piston.
C'est tout à fait joli ça. Mais ce sont des chansons dans les chœurs. Somme toute là, vous n'étiez qu'une, si j'ose dire, une modeste choriste.
Oui, une très modeste
choriste. Mais alors, toute seule, quand vous avez chanté, alors vraiment une chanson seule.
Seule?
Oui, voilà.
Oh là là, alors c'est beaucoup plus tard ça. Oh, c'est dans une opérette de Maurice Yvain. Une délicieuse opérette, pain sur la bouche. Yvain, qui a fait pour cette opérette une partition adorable, avait eu la gentillesse, la bonté, la générosité de me faire un petit air pour moi toute seule. J'arrivais en concierge et je chantais « par le trou de la serrure ». C'était très gentil, mais j'avais une peur horrible. Vous savez, chanter derrière un piano, ce n'est rien. Mais chanter avec des instrumentistes et un chef, des gens qui vont leur petit bonhomme de chemin, sans penser à vous attendre quand vous vous trompez, c'est épouvantable. J'étais tellement émue que le jour de la générale, en tramway, j'ai regardé fixement une dame que je ne connaissais pas, qui était en face de moi, et je lui ai dit, madame, ce qui a des frayons, n'est-ce pas, c'est l'orchestre.
Voilà.
Cette dame a paru saisie, et je suis descendue de tramway. Et le soir, mon Dieu, ça s'est bien passé, et je vais vous dire pourquoi. Les spectateurs avaient entendu pendant trois actes des gens qui chantaient juste. Je suis arrivée, j'ai chanté très faux, ça les a soulagés, ça les a amusés. Mon Dieu, ils ont été gentils.
Et ils vous ont fait un très joli succès.
Oh non, mais ils ont ri. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que cette femme chante? Voilà tout.
Eh bien, madame Pauline Carton, vous ne vouliez pas nous donner d'interview. Vous ne nous avez pas donné l'interview, n'est-ce pas?
Non.
Bon, nous sommes bien d'accord.
Nous sommes d'accord.
Mais enfin, nous sommes vraiment très contents quand même d'avoir de si jolis souvenirs.
Vous êtes infiniment gentil. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Une concierge doit être au courant.
Plus de technique qu'elle ne nous le dit, madame Pauline Carton, après la gouaille donc de Mistinguette et puis la voix quand même bien éraillée de Pauline. On va terminer avec une voix très très musicale. On revient à celle qui a ouvert notre émission, la grande Yvonne Printemps. Et là, on est en 1948. Elle évoque quelques-uns de ses souvenirs d'opérette, notamment ceux d'André Messager, de Reynaldo Hahn, Yvonne Printemps, dans une émission intitulée Un quart d'heure avec madame Yvonne Printemps.
Allô? Allô? Allô, madame Yvonne Printemps?
Moi-même.
La radiodiffusion française, madame, a l'intention de dédier la première des quatre émissions qui vous sont consacrées à deux grands musiciens disparus, André Messager et Reynaldo Hahn. Pourriez-vous, vous qui avez eu l'occasion de les approcher, évoquer à leur propos quelques souvenirs?
Pensez avec quel plaisir. Messager, Reynaldo Hahn, deux grands noms, deux grands succès, deux beaux et grands souvenirs. C'est un musicien, Yvan Caril, qui était venu demander un livret d'opérette. Il avait eu beaucoup de succès en Amérique, de très grands succès. Il le prend, il l'emporte avec lui en Amérique, où il devait se rendre pour une quinzaine de jours. Et, hélas, il meurt sur le bateau. On oublie ce projet, on range ce livret d'opérette dans un tiroir. Et un soir, le merveilleux messager arrive dans la loge et dit simplement « Pourquoi pas moi ?» Pensez la joie, l'émotion, enfin, tout ce qu'on peut ressentir. On lui donne le livret et le lendemain matin, à 10h, il apportait l'air « J'ai deux amants » qui ne comportait qu'un seul couplet car ça ne devait pas être chanté dans le livret initial. On lui a refait un second couplet et tous les matins, pendant un mois et demi, il apportait une chose étonnante, la musique la plus ravissante, la plus distinguée, la plus spirituelle, la plus française. Et il avait 70 ans.
Il est un pouvoir dont le temps respecte et redoute les âmes. On le possède à 50 ans comme à 18, et c'est le charme. Eh bien, il faut lui souhaiter de conserver toute sa vie cette suprême qualité que la plus belle nous envie, qui fait dire aux gens « C'est vrai, elle n'est pas très intelligente, elle a le menton un peu de travers, le bleu de ses yeux est plutôt vert, elle est ceci, elle est cela, et je la crois très ignorante, évidemment, seulement, voilà. »
Yvonne Printemps dans Les couplets du charme, une des pages que je préfère dans L'amour masqué qu'elle vient d'évoquer, L'amour masqué d'André Messager et Sacha Guitry, enregistré ici à Paris en 1941. Ainsi s'achève, étonnez-moi, Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique, Pierre Mine, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, dernière émission de la saison, ce sera pour le Tour de France, un spécial sport et accordéon avec le fantaisiste Danny Morris et l'accordéoniste Armand Lassagne. Bon week-end à tous.